Dans le cadre de cette série de débats sur le livre d'art, enfin sur le livre, pardon, et sur le livre d'art en particulier, puisque Claude Dreger est parmi nous, je voudrais vous présenter une sorte d'aventure, qui est l'aventure de la famille Dreger, et de Claude en particulier. Et quand on m'a demandé d'animer ce débat, ça m'a doublement intéressé, parce que je connais Claude depuis des années, on se côtoie, on se connaît, je connais sa production, et je ne connaissais pas vraiment l'histoire de la famille, à part quelques noms mythiques, on m'avait toujours parlé du Dali de Dreger. Donc, je voulais savoir un petit peu plus ce qu'il en était. Et puis de Claude, je connaissais les éditions en thèse et tout son travail pour le Mai du Livre d'Art, que vous suivez, puisque vous êtes en large partie des gens de ce milieu. Et j'essayais un petit peu de voir avec Claude comment on pourrait bâtir cette interview. Et on s'est dit, tout bêtement, qu'on pourrait parler de l'histoire de cette maison Dreger, de cette mythique maison Dreger, des éditions en thèse et de la personnalité de Claude. Parce que Claude est un timide. Moi, depuis des années que je le côtoie, il ne m'a jamais parlé de sa vie, il ne m'a jamais parlé de ce qu'il avait fait, de qui il était. On a parlé livres, bien sûr, on a parlé de comment on fait un livre d'art, comment les difficultés inhérentes à une maison d'édition, les difficultés en général du livre d'art, mais il ne m'a jamais raconté véritablement sa vie. Et du coup, en préparant cette interview, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Et je dois dire que derrière la personnalité très discrète de Claude, il y a une véritable aventure humaine et très liée au milieu de l'art. Alors, j'ai lu un jour qu'on l'avait défini un peu comme un gentleman éditeur, ce que je trouve une très jolie expression, mais en y réfléchissant un peu, c'est pas du côté du gentleman aristocrate que j'ai envie de le tirer, mais plutôt du côté du gentleman farmer. Vous savez, quelqu'un qui a vraiment les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis, le cutter d'un côté, l'appareil photo de l'autre, puisqu'il est aussi photographe. Et c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la réalisation du livre, au jour le jour, sa diffusion, et Dieu sait si c'est quelque chose d'important, distribution et diffusion, et sa défense, et la défense du livre d'art, vous le savez aujourd'hui, est quelque chose de très difficile, puisque les gens ont tendance à négliger un peu ce secteur. Donc Claude est vraiment impliqué dans chacune de ces étapes. Alors, on va commencer directement un peu comme un interrogatoire. Cher Claude, votre nom, votre âge.
Claude Dreger, 62 ans et quelques, et en pleine forme.
Alors, Dreger, enfin qui dit Dreger dit donc cette maison et cette entreprise familiale. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu son histoire depuis sa création au tout début du 19e siècle ?
Absolument. Je crois que c'est une aventure un peu merveilleuse, puisque j'avais un arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Nicolas Dreger, qui était né en 1813 à Trèves, en Allemagne. À l'époque, c'était le Palatinat, c'était sous domination française, puisque c'était la France était énorme. Donc il est né, déclaré avec des papiers français, etc. Il part à l'âge de 15 ans, donc, faire le tour d'Europe des compagnons pour découvrir tous les métiers de l'imprimerie, puisqu'il voulait devenir imprimeur. Et ce voyage dure 13 ans, et on le retrouve en Suisse, puis en Belgique, et en 1833, je me suis trompé d'un siècle, je vais trop vite, il arrive à Paris à l'imprimerie du Moniteur, où il travaille sur des machines. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les machines à imprimer étaient des machines à bras, et qu'entre eux, les imprimeurs appelaient ça le collecte de fer, ces grosses presses, et c'était un travail assez épuisant. Et donc il change et il va chez Plomb, puisque Plomb était une imprimerie aussi au début du 19e, et c'était l'imprimeur de l'empereur, s'il vous plaît. Après ça, pour se perfectionner dans le métier, et puis aussi apprendre un peu ce que c'était que la couleur, il rentre à la Banque de France. Et il travaille à la Banque de France. Il prend un petit moment pour aller épouser une jeune fille qu'il avait rencontrée quelques années avant en traversant le Rhin, une batelière. C'est peut-être de là que mon goût pour le bateau. Et il épouse Anne-Marie Campbell à Strasbourg. Et il revient en 1843. Il a un fils qui s'appelle Charles Dreger. puis un deuxième qui s'appelle Guillaume. Entre-temps, il se dit, après tout, il faut même, dans un pays dans lequel je vis depuis aussi longtemps, il serait quand même bien que je prenne la nationalité. Donc, il devient français en 1848. Charles Dreger, son fils, passionné par l'imprimerie, rentre chez Martinel, qui était l'imprimeur de l'illustration à l'époque. Et il commence à apprendre le métier. Et puis, en 1868, j'abandonne Nicolas Dreger, qui a vécu 100 ans, et qui, en 1870, a arrêté de travailler, mais a continué à encourager ses fils. En 1868, Charles Dreger épouse Amélie Bagdassar, et c'est important, parce que vous verrez que cette femme, à la disparition de son mari, a créé Dreger Frères, et vraiment l'imprimerie dans laquelle j'ai été élevé, comme mes parents et mes grands-parents.
Et alors du coup, elle est née à quelle année? Alors la maison Dreger Frères, c'est née en quelle année?
Dreger Frères, c'est en 1899.
Et où est-ce qu'elle s'installe? À Paris?
Et elle s'installe à Paris. Elle s'appelle à l'époque Dreger et Le Sieur, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils avaient besoin d'un financier, ça n'a pas beaucoup changé depuis d'ailleurs, pour arriver à exploiter leur talent. Et l'imprimerie s'appelle Dreger et Le Sieur, et elle s'installe rue de Vaugirard, au 118 rue de Vaugirard. Et d'ailleurs, assez formidablement, il y a toujours une imprimerie à cette adresse.
Et Dreger Frères ensuite va migrer vers la banlieue, c'est ça?
Et Dreger Frères part s'installer à Montrouge, où toute la famille s'installe. Il trouve 2 hectares de terrain à la porte d'Orléans. À l'époque, c'était des guinguettes, c'était la forêt. J'ai encore vu des photos ce matin en regardant. Et puis, ils construisent un premier bâtiment, un deuxième bâtiment. Et puis, en 1907, tout le terrain est pris. Et puis, il y a ce grand événement dont je te disais un mot tout à l'heure, c'est l'arrivée d'électricité. Il faut savoir que jusqu'en 1910, toutes les machines à imprimer étaient entraînées par une vieille locomotive à vapeur que mon arrière-grand-père avait trouvée. Et avec un système de courroies tout à fait incroyable, il faisait tourner 7 presses à imprimer. Et ça, je dois dire, j'aurais bien voulu voir ça. Et alors, comme on est conservateur dans la famille, on avait gardé cette machine à vapeur qui a de nouveau resservi pendant la guerre de 14-18 et qui a resservi en 1940. Toujours entretenu en se disant, on ne sait jamais.
Donc l'histoire de la famille, on va peut-être glisser un petit peu rapidement, mais vous devenez très vite spécialiste, à la fois imprimeur et publicitaire. Alors comment ça s'est fait, ce lien entre deux métiers qui a priori sont différents?
Disons que j'ai d'abord commencé, comme tu disais tout à l'heure, à faire de la photographie dans les stages que j'ai fait à l'imprimerie, puisque j'ai fait quand même 7 ans de stage. J'ai appris tous les métiers, depuis balayeur d'atelier, conducteur de machine, typo, hélio, offset, photogravure, brochage, relure, cartonnage, enfin bref, j'étais assez calé dans ce métier. Et puis, mon service militaire m'ayant envoyé de l'autre côté de la Méditerranée, comme photographe, j'ai passé 2 ans et demi à couvrir toute la Tunisie. Enfin, j'étais parti pour l'Égypte, mais ils ont eu peur quand je suis arrivé, ils ont arrêté la guerre. Après ça, j'ai fait la Tunisie. Après ça, j'ai fait l'Algérie. Et donc, énormément de photographies, énormément de reportages, et puis des articles dans la presse. Et ma fascination pour l'image a commencé à ce moment-là. Et toute ma vie, je crois que c'est l'image qui m'a guidé partout et l'émotion qu'elle produit.
Et le lien donc entre la photo et la publicité?
Eh bien, en rentrant de ces séjours de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'agence de publicité que mon grand-père avait fondée en 1920. Et je trouvais que c'était quelque chose de tout à fait passionnant, puisqu'il faut dire un maximum de choses avec un minimum de mots, et qu'il faut pouvoir vendre tout un produit sur une page, alors que souvent on y emploie des livres et qu'on n'y réussit pas.
Et tu me disais donc que la maison à ce moment-là était énorme. Entre l'imprimerie et l'agence publicité, vous comptiez combien de personnes?
1200.
ce qui est quand même...
À l'époque, c'était quand même une des plus grosses imprimeries qui ne faisait que de la publicité, hein, pratiquement.
Et quel type de pub ? Quel type de clientèle ?
Alors là, c'est pareil, c'est toutes les grandes marques. Il faut savoir que mon grand-père a été fondateur en partie du comité Colbert, avec les Guerlain, les Hermès, les Nicolas, enfin toutes ces marques, tous les grands joailliers. Et ça a commencé dans les années 30, où nous étions, je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière, on était les seuls à pouvoir imprimer des reproductions en couleur et surtout des photographies en couleur. À l'époque, il faut savoir que c'était la grande période du dessin et toute la publicité, toute la réclame, enfin c'est le moment où la réclame devient publicité, était faite par des dessinateurs et des dessinateurs de grand talent. Et tout d'un coup, mon grand-oncle, qui était aussi passionné de photographie bien avant moi, a dit « mais enfin tout, c'est pas possible, puisqu'on fait des sélections pour faire de la typographie, pour faire les fameuses quatre couleurs qui permettent de transmettre l'image transparente ou l'image que vous voyez sur le papier, on doit pouvoir arriver à faire des photos de la même façon. » Alors un jour, il a été acheté une boîte de berlingots de toutes les couleurs, et puis il s'est enfermé dans son laboratoire et il dit « je veux absolument que cette photographier ces berlingots et qu'on retrouve toutes les couleurs des berlingots sur une feuille de papier ». Et quand, je ne sais pas si vous voyez, c'est toutes les couleurs, c'est absolument infini dans ces grands bocaux transparents. Et puis, au bout de 6 mois, il a réussi à photographier et à reproduire sur le papier les berlingots de la couleur dont ils étaient, sans passer par le dessin. Mais le problème continue à se poser, c'est de savoir comment faire des gens qui bougent les berlingots dans leurs bocaux, ils ne s'en allaient pas. Or, il fallait faire 4 photos, les unes à la suite des autres, en parfait repérage, le temps de pause étant à peu près de 6 secondes, demander à quelqu'un de rester sans bouger trop longtemps, c'était pas possible. Donc, il a beaucoup travaillé, il a cherché, il a trouvé en Allemagne un ingénieur qui avait inventé un appareil photo à prisme avec des plaques. Et ce prisme permettait de faire 3 photos en même temps, c'est-à-dire qu'on photographiait directement en négatif le jaune, le rouge et le bleu, et en 3 secondes, on avait les 3 clichés qui lui posaient des problèmes. C'était la réussite, c'était le début de la reproduction de personnes photographiées en couleur. Avant, ça n'avait jamais été fait. Et parallèlement, mon autre grand-oncle avait découvert l'héliogravure, qui est un procédé tout à fait extraordinaire, puisqu'il permet de jouer avec l'épaisseur d'encre qu'on met sur la feuille de papier, alors que tous les autres... procéder, quand vous êtes en aplat, vous êtes en aplat. Eh bien, en héliogravure, les aplats peuvent être plus ou moins denses et plus ou moins profonds. Et en même temps qu'un de mes grands-oncles trouvait ce procédé 301, donc de reproduction directe, avant que l'ectachrome et le kodachrome arrivent, qui ont révolutionné complètement la reproduction, mais qui n'arrivera qu'après la guerre de 44-45, puisque c'est arrivé dans les bagages des Américains. Avec la pénicilline et quelque chose de merveilleux et d'autres choses d'ailleurs. Mais jusqu'à la guerre, c'était la seule façon de reproduire, c'était celle qu'avait mon grand-père. Donc toutes les marques d'automobiles de l'époque, les parfumeurs, toute la publicité, tout passait par nos mains parce que on avait une avance qui a duré 10 ans sur la possibilité de reproduire la photographie et surtout les objets animés.
Et la maison a déjà pris, enfin Dreger Frères avait déjà pris cette spécialité de livre d'art par
votre avantage
technique ? Non.
Non, le livre d'art, c'est un peu un accident que j'ai amené.
Ah oui, d'accord. Et par rapport à Skira, puisque quand on parle livre d'art et impression, comment vous vous situiez par rapport à Skira en Suisse ?
Non, nous imprimions pour tous les grands éditeurs, c'est-à-dire qu'on a imprimé pour Skira, on imprimait pour Flammarion, on imprimait pour tous les grands magazines. On imprimait surtout les pages en couleur qui étaient encartées, ça faisait soit un cahier, soit quelques pages, et on travaillait déjà pour Flammarion, pour Larousse, on a fait tous les livres de Larousse, on a fait après la guerre, l'univers des formes, nous étions les imprimeurs parce que avec une technicité et une qualité de reproduction, et je te racontais l'autre jour, par exemple, quand l'univers des formes a été lancé, Malraux est venu en disant ben voilà les documents, mais ils sont pas en couleur, débrouillez-vous. Non, vous nous les reproduisez en couleur, mais ils sont en noir. Ah bon, mais vous pouvez nous amener quelques indications. Donc, nous avons recréé dans notre studio tous les documents noirs comme ils devaient être à l'époque avant qu'ils disparaissent. Et je dois dire que ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire reproduction en 6 et 7 couleurs avec de l'or, de l'argent, des vernis. C'était vraiment.
À partir de documents noir et blanc, c'est ça ?
À partir de clichés noir et blanc.
Non, ouais. C'est faux. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un personnage, moi, qui me tient à cœur, puisque c'est le créateur de la revue pour laquelle je travaille, Robert Delpire, puisque c'est lui qui a fait la première maquette de l'œil. Il apparaît donc là en tant que publicitaire, c'est ça ?
Exact, oui. On a fait connaissance avec la Deux Chevaux. La naissance de la Deux Chevaux, elle a lieu chez nous et avec Delpire, et là aussi on a fait des choses tout à fait étonnantes, et on a travaillé pendant de nombreuses années. On a été sur le berceau de la déesse aussi, je me rappelle, ça avait été une aventure, parce qu'on travaillait la nuit et le samedi et le dimanche, tellement tout le monde voulait que le secret de cette voiture soit gardé. Et c'était une aventure dans une entreprise où il y a 1000 et quelques personnes, d'arriver à faire des choses confidentielles. C'est toujours assez difficile. Mais là, ça a très, très bien fonctionné, puisqu'on a pu livrer les catalogues de la DS à Citroën sans que personne ne le sache.
Et aussi, un autre personnage important qui travaille avec Dreger Frères, c'est Thériade, l'éditeur d'art.
Thériade,
que vous avez fait avec Thériade aussi dans ces années-là.
Oui, la revue Verve, et ça, c'est tout de suite après la guerre aussi. Ça a commencé avec un ou deux ouvrages avant, puisque les premiers numéros de la revue Verve ont dû sortir en 40 ou 39, juste avant, puis ça a été interrompu, ça a repris dès qu'on a eu du papier, puisque c'était un des gros problèmes, en 45, 46. Et là, ça a été l'occasion pour ma famille aussi de rencontrer des artistes extraordinaire. Et quand on voit les numéros qui ont été faits avec Matisse, avec Braque, avec Picasso, c'était Chagall aussi, bien sûr, le Daphnis et Chloé, qui est pour moi un livre inoubliable. Bah, le jazz de Matisse, c'est sorti chez nous aussi.
Ça veut dire que les artistes venaient travailler directement à l'imprimerie ?
Exactement, oui. Exactement, mais il y en a qui avant ont travaillé au studio ou ont participé beaucoup dans les années 30, avant que la photographie démarre. Il faut savoir que tous les grands affichistes, Cassandre, tout ça, ils ont tous travaillé chez nous. Que comme rédacteur, grand ami de mon oncle, il y avait Cocteau et Colette qui venaient faire les textes des catalogues publicitaires dans les années 25, 28 déjà, et c'était des relations amicales. Mon grand-père habitait Montparnasse et il connaissait tout le monde. C'était vraiment des moments tout à fait que je regrette de ne pas avoir vécu.
Et alors, je crois qu'une, enfin, dans ce que j'ai entendu de cette histoire, il y a une date importante, c'est en 66 avec un voyage aux États-Unis, parce que c'est le lien avec du livre d'art avec l'étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
C'est une aventure, c'est-à-dire que j'avais envie, moi, puisque déjà je commençais à avoir quelques années de plus, de faire des livres nous-mêmes. Et j'avais été à Francfort, je me rappelle la première année à Francfort, c'était encore dans les baraques Adrian, et on faisait le tour dans la demi-journée, et puis j'ai rencontré les présidents de Macmillan, de McGraw-Hill, tous ces grands de l'édition, et je leur venais en disant, vous êtes les meilleurs imprimeurs du monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Il dit, mais vous n'avez pas de projet ? Ben, je dis, non, on est imprimeur. Mais vous savez, regardez les documents. Alors, on avait amené les livres de tous nos confrères qu'on avait imprimés pour les confrères Flammarion, Gallimard, etc. Il dit, non, nous, on achète des droits. Ici, c'est un endroit pour acheter des droits. L'impression, on l'a fait chez nous, c'est très bien. Bon, alors je suis rentré et puis j'ai dit, bon, ben, c'est pas tout ça, on va faire des livres. Et j'ai commencé avec un livre qui s'appelle « Leur monde » de Daniel Franet. Daniel Franet est un gitan un peu fou, un peu excentrique, tout à fait génial, qui était photographe au Lido et au Casino de Paris. Vous voyez, il avait déjà des fréquentations. Et il a rencontré tous les artistes, il les a photographiés. Et c'est un peu un livre, pour moi, exceptionnel, puisque c'était donc en 66, on a fait le premier livre des artistes dans leur studio, avec les découvertes de tous les gens qui sont devenus des grandes vedettes. Et à l'époque, c'était extraordinaire. Il y a des photos de Giacometti chez lui, il y a des photos de Braque, il y a des photos de Chagall, une photo de Magritte absolument incroyable, avec son chapeau melon dans son salon et qui tient une pomme dans le carreau à côté. C'était des périodes tout à fait extraordinaires. Je vais à Francfort avec ce projet de livre.
Mais donc, c'est toi qui l'avais imposé dans la maison familiale.
Ah oui, 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 ça c'était mon premier livre que j'ai essayé de vendre, que je n'ai pas vendu du tout. On m'a dit non, mais là, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Les artistes dans leur studio, ça n'intéresse personne. J'ai dit bon, je rentre chez moi. Et puis, sur ce, arrive la grande exposition d'Ali en 65, je crois, de mémoire à peu près. Et qui est vraiment une rétrospective, la première grande rétrospective sur l'œuvre de Dali, que la famille Morse avait financé pendant toute la guerre, et qui, c'était des blanchisseurs de Cleveland, et qui avaient fait vivre Dali et sa famille pendant toute la guerre en échange d'un tableau tous les mois et demi, ou tous les deux mois, je crois, et qui fait une collection de 80 ou 100 Dali absolument époustouflant des plus belles années. Et en remerciement, Dali a dit d'accord, on fait une grande exposition, ils font cette exposition et on envoie une équipe de photographes là-bas pour photographier ça, parce que Dali, on avait les possibilités, c'était une grande maison, donc on envoie une équipe qui travaille pendant un mois, toutes les nuits, pour photographier je crois que c'était 270 tableaux qu'il y avait, c'est vraiment quelque chose d'absolument colossal. On se retrouve avec la plus grande collection de documents sur Dali que jamais personne n'ait eu. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, si on fait une maquette, donc on fait une maquette, on va au studio. On avait un studio de création à l'époque, il y avait quand même 45 personnes, avec des gens de tous les talents, et qui traitaient, et c'est ça que j'aimais beaucoup, qui traitaient le livre comme un catalogue publicitaire. C'est-à-dire
oui, parce
toujours,
que c'était 45 personnes de l'agence de publicité, c'est ça?
Ils travaillaient pour les deux.
Ouais, pour les deux.
Ouais. Et c'était donc on a commencé à faire des images à fond perdu avec des textes en réserve, des choses que les gens ne faisaient assez peu.
C'est quoi d'ailleurs la différence fondamentale entre ce Dali de Dreger dont on parle toujours et un Dali normal?
Oh ben déjà il y a pratiquement pas de texte. Mm-hmm. Et les textes sont de Max Gérard et de Salvador Dali avec tout son humour, et surtout c'est une mise en avant de l'image. Et c'est la première fois qu'on faisait un grand livre comme ça, à fond perdu, mmh. avec l'image qui
envahissait les pages. Ouais, c'est ça.
Et donc, on a essayé de vendre ce magnifique projet à Gallimard, qui n'en a pas voulu, à Flammarion, qui n'en a pas voulu. On a été voir Larousse, il m'a dit non, c'est invendable, il ne faut pas le faire. Et puis, mon oncle m'a dit, bon, bah, écoute, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Alors, je repars avec ma maquette à Francfort. Et puis comme j'aime bien m'amuser aussi, on était parti avec toute une collection de tiroirs vides. Je me rappelle, j'avais eu les pires problèmes à la douane parce que je voulais faire un stand d'Alinia. Et j'avais sur les galeries de mon toit une trentaine de tiroirs vides et puis des montres molles qu'on avait fabriquées à la galvanoplastie chez nous. Puis on arrive, on commence à installer notre stand le premier jour avec ces montres qui dégoulinaient. Et puis alors les gens s'arrêtent, tout le monde, il y a un attroupement. Et avant l'ouverture, j'avais vendu mon livre à 30 000 exemplaires en Amérique, en Allemagne, au Japon et en Espagne. Alors j'en dis, bon, c'est formidable. Et puis je rentre à Paris, je dis à mon oncle, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant j'ai 30 000 exemplaires en commande, est-ce qu'on continue ou tu crois qu'il faut retourner voir les autres? Alors, il dit, il faut peut-être en parler à Gallimard et à Flammarion. Je dis, écoute, fais la maquette, on a les commandes. On peut avoir les acomptes, on se lance. Bon, mais dis bon, allez, on y va. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on a fait ce livre. Et je dois dire que le succès de ce livre est dû à Dali, qui est venu à l'atelier. Il venait souvent, quand il était à Paris, il venait nous voir. Et puis, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait comme jaquette? Oh, il dit... Et on passait dans les ateliers, il dit ça. Et il nous montre les couvercles de boîtes de chocolat de la marquise de Sévigné. Il dit, c'est simple, vous enlevez la marquise et vous mettez
un
tableau à moi à la place. On dit, mais c'est fou, sur du papier métal, doré,
avec
gaufré, en plus, je le voyais très épais. En plus, on n'avait pas de machine assez grande, on était obligé de faire la jaquette en deux morceaux. Enfin, bref, nous voilà partis, on fait cette jaquette, et ça veut dire que ça a été la révolution, puisqu'on a vendu... et c'est sorti, j'oublie le meilleur quand même... Le lancement du livre a eu lieu en mai 68 à l'imprimerie. L'imprimerie occupée. D'un côté, s'était mis d'accord avec les grévistes. On a fait une fête, mais une grande fête avec tout Paris est venu. On a eu le Pop Club en direct dans l'usine occupée avec les grévistes de l'autre côté. C'était vraiment un lancement surréaliste. génial. Je me rappelle, Dali avait dit, mais il faut vraiment, il y ait du spectacle. Donc, il voulait un taxi plus vieux. Alors, un taxi plus vieux, je vous explique, c'est un vieux taxi qu'on avait trouvé, dans lequel on avait mis des jets d'arrosage. Et il pleuvait à l'intérieur du taxi. Sinon, il faisait le temps d'aujourd'hui, il faisait un temps magnifique. Et il dit, pour que ça soit plus vivant, il faut qu'il y ait un personnage. On dit, un personnage, bon. Eh ben oui, il nous a imposé de mettre une jeune femme nue, couverte d'escargots vivants. Alors évidemment, la pauvre fille, on avait dit, mais on va essayer de chauffer un peu l'eau, mais d'abord, puis les escargots, ça a tenu un moment. Et on a été obligé d'abandonner. Et comme hôtesse, il nous avait aussi imposé des femmes torse nues, mais la tête dans un pot de fleurs. C'est-à-dire que on voyait pas la tête. Elle, il y avait des petites fenêtres dans les pots et elle se promenait et elle distribuait des cigarettes, ou je ne sais plus. C'était tout à fait. Et puis il y avait tout Paco Rabanne qui était venu avec tous ses mannequins habillés avec des plaques en plastique et des anneaux. Vous savez, c'était assez coquin quand même tout ça.
Non, et alors l'ouvrage quand même, bon, grand succès, mais un prix relativement élevé.
Non, enfin pour l'époque il était à 300 francs. Je veux dire, c'était encore tout à fait abordable. Mais non, le prix était correct.
Parce que du coup, après cette prouesse technique de la couverture gaufrée dorée, autre prouesse technique, vous sortez un Dali de poche dans une enveloppe en jean, c'est ça ?
Ah oui, mais ça c'est 3 ans après. Oui, parce que Dali dit, mais avec votre livre, il est un peu cher, on n'arrive pas à toucher les jeunes, et je voudrais absolument qu'on puisse toucher toute la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors bon, il y avait les livres de poche qui commençaient à sortir, mais il dit on peut faire un Dali de poche. Ah, il dit oui, mais alors on réduit. Ah mais non, j'ai dit si on réduit, il faut refaire toute la photogravure, c'est impossible, ça va faire un livre très cher. Il faut couper dans les tableaux. Ah ben il dit oui, pourquoi pas. Ramenez-moi un livre à plat, et le voilà parti avec des ciseaux, et il recadre tous ces tableaux.
Donc en fait, ce sont des détails, des petits morceaux,
voilà,
de tableaux
qui font des
pleines pages.
Voilà, c'est des morceaux, Dali de poche. Et puis en plus de ça, il dit, mais attends, je vais faire mieux. À la fin, il y a des tableaux que j'ai faits il y a 20 ans qui ne me plaisent plus tout à fait. Je vais repeindre dessus. Et le voilà. Et je te montrais tout à l'heure le dernier cahier du livre avec des Dali repeints par Dali sur le livre 3 ans après ou 4 ans après la sortie du premier. Alors là... L'idée qu'on a eue, c'était de mettre ça dans une poche en jean avec une pression, et on vendait ça comme ça. Alors, c'était un désastre complet. Personne comprenait pour qu'il y ait des petits bouts de Dali comme ça, qui n'avaient ni queue ni tête, et puis la poche n'a pas plu non plus, ce qui fait que c'est un merveilleux échec.
Mais un très bel ouvrage.
Oui, mais c'est maintenant, c'est vrai, quand je le regardais, je l'ai sorti justement pour... Et je me dis, mais dans le fond, c'est fabuleux, c'est...
C'est un livre d'artiste, enfin, c'est plus du domaine du livre d'artiste que du domaine du livre d'art. Enfin,
absolument, voilà. Mais lui il était à bon marché, il était à 100 francs à l'époque, ouais. C'était déjà...
Alors du coup vous avez tiré la leçon du bon marché, puisqu'après vous avez fait un best-of du premier Dali.
Voilà, on l'a fait embrocher avec les meilleures pages de chacun de ces... Du grand livre, et avec un texte revu, et là aussi ça a été aussi, enfin disons que le grand Dali de Dreger, on est à près de 300 000 exemplaires, puisqu'ils viennent d'être réimprimés encore, c'est plus nous qui nous en occupons, et le Dali souple aussi a fait aussi 200 ou 300 000 exemplaires, je crois que ça fait partie des grandes réussites de l'édition, et incroyable. Et incroyable, on comprend pas pourquoi un livre comme ça. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi ça dure si longtemps, puisqu'il y a beaucoup d'autres ouvrages qui sont sortis depuis.
Et est-ce que cette tradition du livre, dont on va faire des succès d'année, on va dire, c'est-à-dire un best-of ou bien des dérivés, était déjà quelque chose de courant ou bien c'était innovant à l'époque ?
Non, je crois que c'est un petit peu. Mais c'est toujours cette idée, je crois, qui était en fait que j'aimerais pouvoir continuer à appliquer tout le temps, c'est de faire payer aux gens qui en ont les moyens tout le matériel pour faire un livre superbe, et puis après ça vendre le papier un peu couvert d'encre et donner l'émotion que les gens ne peuvent pas s'offrir avec le grand livre. Mm-hmm. En fait, c'est quand on arrive à ça, moi je trouve que j'ai vraiment fait mon travail d'éditeur. Mm-hmm. Mais c'est très difficile. Maintenant, les techniques, quand on voit ce que fait ta chaîne, quand on voit ce que font tous les grands ces grands éditeurs, ils sortent en même temps le livre à 100 et quelques mille exemplaires dans toutes les langues, puisque j'étais à Pékin l'année dernière au salon du livre d'art et que j'ai fait une habitude de 27 librairies pour voir un peu comment ça se passait. Et ben, ta chaîne est en pile dans toutes les librairies chinoises. Oui, mais je me suis dit, mais comment ça se fait, c'est en anglais. Il me dit, ça n'a aucune importance, les gens achètent pour les images. Alors je me dis, de toute façon, on a des chances aussi en français, pourquoi pas.
Et vous avez aussi, dans la veine d'Ali, fait des livres dérivés, on pourrait dire, les vins de gala, les dîners de gala, etc. Ça participe un peu de cette même opération autour d'un artiste.
C'est-à-dire que j'ai fini par avoir des rapports tout à fait agréables et gentils avec, avec Dali, que j'allais voir très souvent à Gadakès. Et puis on s'est dit, après tout, il y en a deux qui marchent, pourquoi pas plus. Et alors, on lui a proposé un livre de cuisine. Mais enfin, lui, en dehors des sardines grillées et des ortolans, il n'était pas très gourmand. Il dit, mais oui, mais trouvez-moi un cuisinier. Bon, alors on lui a trouvé un cuisinier qui a fait des recettes. Alors là, si jamais vous trouvez ce livre, prenez l'Alka-Seltzer avant et après pour le digérer. Et on a sorti ce livre qui s'appelait « Les dîners de gala ». Gala étant le nom de Dali, pour ceux qui ne sauraient pas, et qui a eu un très très grand succès, puisqu'il est toujours en librairie. Et pour compléter, je vous dirais que les illustrations de ce livre, c'est nous qui les avons faites, c'est lui qui les a arrangées et signées, parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Mais on était arrivé avec notre équipe du studio à avoir de telles relations avec Dali, que j'allais le voir pratiquement tous les 15 jours à Gadakès. On travaillait, je revenais, on modifiait, on redescendait, et c'était tout à fait étonnant avec les crises effroyables qu'il pouvait avoir. La fameuse maquette du le dîner de gala, on lui apporte à l'hôtel Meurice, on fait pas attention, arrive une chaîne de télévision allemande. Alors, du gentil Dali qu'on connaissait, c'est le fou furieux qui apparaît. Et devant les caméras allemandes, il déchire en pièces toutes les pages de la maquette. C'était quand même 60 000 francs d'investissement de notre part, tous les tirages originaux qu'il y avait à l'intérieur. Et il hurle, il nous dit qu'on est des bons à rien, etc. Et puis le lendemain, il me téléphone, il dit que vous ne ferez pas payer les droits pour ce livre-là. Voilà.
Sympathique. Et alors, vous travaillez avec beaucoup d'artistes à l'époque, puisque vous avez fait une grosse production, avec Braque, avec Picasso, avec Magritte.
Oui, Braque, c'est aussi une autre chose que j'aime beaucoup. J'avais envie de faire quelque chose sur les cubistes. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Laurence, qui était le fils du sculpteur et qui était le légataire universel de Braque. Et qui habitait la ville La Braque, à côté du parc Montsouris. Et c'était vraiment un endroit hors du commun, puisque quand j'y suis allé, donc dans les années 69, 70, la maison était encore dans l'état dans lequel Braque l'avait voulu. Et je veux dire, c'était très très émouvant, parce que pour mettre en valeur ces tableaux, il avait peint les murs avec des couleurs qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voit dans les maisons. Il avait des marrons foncés, des verts olives. Et sur les murs, il y avait ces tableaux avec des cadres peints de couleurs différentes. Ce qui fait que à chaque tableau, on avait l'impression d'une fenêtre ouverte sur son imaginatif, sur quelque chose d'inattendu. Je dois dire que la visite de cette maison m'avait vraiment bouleversé. Et j'ai rencontré Claude Laurence quelques temps après. Il m'a dit, mais malheureusement, j'ai été obligé de repeindre ma maison. Et maintenant, les tableaux ont toujours leur cadre, mais les murs n'ont plus la couleur qu'ils avaient à l'origine. Enfin, je veux dire, ça fait partie des moments merveilleux. Puis travailler avec Mariette. Mariette était la secrétaire assistante de Braque. Qui a vécu avec lui tout le temps, qui avait des souvenirs incroyables, et puis surtout beaucoup de petites photos qu'elle avait glanées tout le long de sa vie. Et je dois dire que le livre sur Braque, qui m'a beaucoup amusé à faire, n'a d'ailleurs pas du tout marché. On l'avait quand même vendu à Abrams, puisque mon compère aux États-Unis s'appelait Harry Abrams, et qu'a priori il aimait bien la façon qu'on avait de présenter les livres. Puis il y avait eu le succès du Dali. Il dit, on a réussi un, on va réussir un deuxième. Ben, ça n'a pas tout à fait été le cas. Mais enfin, on avait quand même fait un très beau tirage.
Et avec le Picasso aussi, tu m'expliquais que ce qui est assez intéressant, enfin, pour nous, on a l'habitude maintenant, en tant qu'éditeur, de commander un texte avant de lancer un bouquin. Là, c'était plutôt fait, l'inverse était fait. Donc vous faisiez d'abord une maquette et ensuite le texte arrivait, c'est ça?
C'est ça. Moi, je faisais d'abord avec les images. On faisait la maquette avec l'équipe de gens qu'on avait là-haut. Et après ça, on cherchait un auteur. On allait trouver quelqu'un. Et c'est pas tout à fait vrai, parce que là, pour Braque et pour Picasso, on l'a fait avec Pierre Descargues, qui est un homme absolument délicieux, charmant, et qui aimait beaucoup cette façon de faire. Et puis moi j'adorais, c'est qu'à l'époque il nous fallait une pièce grande comme ici pour faire une maquette, on mettait tout par terre. Maintenant je vois mon fils quand il prend le train, il a son petit appareil sur les genoux, et on arrive en Bretagne, la maquette du livre est terminée, il a incrusté ses images dans le texte et tout.
Autre et dernier bouquin d'art de l'époque important, le Magritte, que vous avez fait à partir de la correspondance.
Ah oui, ça c'est tous mes livres, c'est des aventures. Puis je crois que tous les éditeurs, c'est pour ça qu'on continue à le faire, parce que c'est une accumulation d'émotions et que au bout du compte, on vit un peu pour ça. Et là, j'ai été à New York et puis je rencontre un avocat qui s'appelle Harry Torsiner, qui était l'avocat de Magritte et grand collectionneur. Et il me dit, Claude, venez voir la correspondance de Magritte. Je dis, oh, bon. Il m'emmène dans une pièce. Il y avait des milliers de lettres. Et il me dit, mais Magritte m'écrivait tous les jours. Et il écrivait 2 à 3 lettres par jour à tous les gens qu'il connaissait et qu'il aimait bien. Et en fait, ce qu'il amenait à l'œuvre, il l'écrivait, il l'expliquait. Et j'ai commencé à me plonger dans ces lettres et c'était absolument fascinant de voir cet homme. Il faisait des petits dessins dans les marges, des petits croquis. Et puis, après ça, il cherchait le titre. Et après ça, il faisait l'œuvre. Et c'était tout à fait extraordinaire. J'ai dit, mais enfin, c'est la première fois qu'on va faire un livre sur un artiste dont il va donner les secrets et les recettes. Et ça, pour moi, c'était, je veux dire, c'est mon livre préféré dans ce style-là. Et moi, j'ai pas pu arriver à me débrouiller de cette montagne de lettres. J'ai pris une jeune femme qui s'appelait Bella Bessard, qui était, bien que française, conservateur au Metropolitan Museum. C'est vrai que c'est un métier de savoir classer, trier, ranger. Et on a fait un livre, lui aussi, qui a été un succès moins éblouissant, mais de notoriété et de durée, puisqu'il est toujours aussi toujours réimprimé, toujours en vente. Et je trouve que ce livre, la peinture de Magritte est assez particulière. Mais l'esprit de l'homme, est, pour moi, c'est le plus grand des surréalistes.
Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans le cas du Magritte et dans le cas du Dali, c'est que chaque fois, ce n'est pas une idée préconçue avant un livre, mais c'est plutôt la découverte ou la recherche que vous faites sur l'artiste qui vous amène à faire un type de livre.
Hein ? Absolument, oui. C'est toujours des rencontres, c'est des occasions. J'ai aussi, qu'il m'est arrivé quelquefois, je suis têtu comme une mule, il y a quelque chose, quand j'ai envie de le réussir, ça m'arrive de le faire aussi.
Alors, cette très belle aventure de Régère Frère, malheureusement, s'arrête en quelle année ?
Elle s'arrête pour la famille en 1972, puisque l'imprimerie est vendue à la famille Gaillard-Motel. Et heureusement pour moi, puisqu'il me garde comme directeur des éditions que je ne faisais qu'à temps partiel avant. Et puis, là aussi, c'est une merveilleuse histoire, le nouveau directeur me dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous développiez vos connaissances et que vous ne fassiez plus de livres ?» J'ai dit, moi, il faudrait faire le tour du monde pour voir ce qui se passe ailleurs, comme ça. Il me dit, faites-moi un projet. Puis je suis revenu et je suis parti faire le tour du monde. C'est grâce à monsieur. Et j'ai découvert tous les Japonais, j'ai trouvé des clients au Japon, j'ai vu des choses partout, vraiment dans tous les coins. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a permis de nouer des contacts, surtout au Japon, qui ont été formidables après. Mais c'est donc j'ai travaillé chez Gaillard-Motel jusqu'en 1980 où on a encore fait quelques livres. Mais il y en a un dont je voudrais parler parce que c'est aussi une merveilleuse histoire. Un jour, je rencontre dans un dîner les Kraft. Et puis ça m'émeut d'autant plus qu'ils sont morts l'année dernière. C'est un couple de gens d'Alsaciens qui étaient complètement passionnés et fous de volcans. Et qui ont travaillé sur tous les volcans dans le monde entier, qui ont fait des reportages photos comme je n'avais jamais vu, et qui étaient d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable. Et puis moi, j'ai dit, mais enfin bon, après Picasso, les volcans. Et puis pour finir, ils m'ont convaincu, mais j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et j'ai dit, moi, avec les volcans, je verrais bien Eugène Ionesco. Ils m'ont dit, mais il connaît rien. Ah oui, mais j'ai dit, moi. Je sais pas, je trouve que vraiment les volcans par les Kraft, commentés par les Ionesco, ça va faire un livre qui est pas comme les autres. Alors ils me disent, bon bah écoutez, j'ai vous l'éditeur, allez-y, donc je vais voir Eugène Ionesco. Il dit, mais volcan, mais j'ai mort de trop, il n'y a rien que quand vous m'en parlez, il n'est pas question. Alors on est parti boire un coup, je ne sais pas si vous connaissez Eugène Ionesco, mais il y avait bien boire. Et puis, en sortant à 5h de l'après-midi du déjeuner, il me dit, allons-y. Et nous voilà partis, et nous voilà lancés dans l'aventure des volcans, des crafts. Et c'était un livre sublime. C'est pour moi, enfin, mon livre préféré, toujours sur les volcans, parce que ces gens avaient fait des photos que j'avais jamais vues. On connaissait Arum Taziev, on connaissait tous ces gens qui avaient fait des grands reportages. Mais ces deux-là, et puis ils sont morts dans une éruption volcanique il y a 2 ans. Et c'était vraiment des gens époustouflants. Puis pour parler des aventures, comme on disait tout à l'heure, ça, c'en est une très très belle aussi.
Alors, s'interrompt l'aventure Dreger Frère pour toi, et tu crées ta propre maison d'édition, donc en thèse. Alors, en thèse, ça cache un sens. Ça veut dire quoi, en thèse ?
En thèse, c'est le cycle de la graine au fruit. En fait, je m'étais aperçu qu'avec Dreger, quand les gens cherchaient dans l'annuaire, on avait déjà pas mal de chance. Je me suis dit, si au lieu d'un D, j'avais un A, j'économise 2 grosses lettres et peut-être que je serai en tête de tous les catalogues. Alors, je cherche, pris le dictionnaire, j'ai cherché. Puis j'ai trouvé en thèse, c'était tellement génial. Entre l'idée et puis l'argent que ça risque de rapporter quand le livre se vend, j'ai dit pourquoi pas. Et donc, j'ai appelé ma société en thèse. Je ne voulais plus jamais donner mon nom à une entreprise, en sachant que quand ça va mal, on va mal avec et ça vous dure toute la vie.
D'ailleurs, petite parenthèse pour fermer sur Dreger Frères. C'est eux qui ont les droits de tous les ouvrages que tu as réalisés pour eux.
Exact, ils ont toujours.
Et alors, en thèse née, mais n'est pas une maison d'édition d'art au départ. Tu te lances dans une aventure très différente, c'est ça ?
Oui, j'avais rencontré un ami espagnol très très vert, et il m'a dit, écoute Claude, bon, c'est fini, les livres d'art, ça n'intéresse plus personne. Le même qui avait publié tous mes livres et qui les avait très bien vendus en Espagne, d'ailleurs, il faut se lancer dans les livres sur la nature. Et c'est vrai que ça me passionne et que je me lance dans toute une série de guides sur comment faire son pain, son potager, vraiment. Mais tout dessiné. Parce que là aussi, j'ai dit, non, les textes, les gens, ça les ennuie, ils n'ont pas envie de lire. Donc c'était tout des petites images illustrées pour expliquer comment faire sa salade, comment soigner un malade, comment faire de la photographie, comment monter à cheval, bref. Me voilà parti. Et puis j'ai dit, pour réussir, il faut que ça vraiment faire un gros coup. Donc je fais 15 livres que je tire à 15 000 exemplaires et je fais des... Et je vais trouver Hachette, il dit c'est formidable, on va vous distribuer, vous diffuser. Il faut faire des présentoirs, allons-y, partons pour les présentoirs. Je livre tout ça chez Hachette. Je ris parce que c'est quand même une très vilaine histoire. Et puis, je reçois des traites et tout, je marche très bien. Et puis à la fin de l'année, je suis convoqué chez Hachette en me disant, mais écoutez, tout est revenu, vous nous devez 1 million. Bouf ! Alors vous savez ce que c'est que l'édition, quand on a mis tout ce qu'on a, qu'on a pris des crédits chez les fournisseurs et tout, ça a été vraiment une première gamelle assez remarquable.
Et ça veut dire que les livres qui avaient été faits chez Dreger Frères étaient vendus ferme aux libraires ? C'est ça ?
Ah non,
alors
ça,
que ceux-là étaient avec possibilité
exact.
De retour.
Oui, oui, oui. Non, c'est le système Hachette. C'était des livres pour vendre à 30 francs. Attention, c'était. Mm-hmm. Donc, on arrête. Et on repart.
À moins 1.
Et on repart sur les routes de France avec des livres de confrères pour payer ses dettes. Alors là, le.
Oui, donc c'est un autre système finalement. Ouais. Là maintenant, à ce moment-là, ça a été des achats. De livres déjà édités que
exact.
Tu vois à Francfort et que tu décides de vendre. Et alors l'idée assez intéressante que je ne connaissais pas à ce moment-là, c'était d'acheter des livres très chers que les confrères français ne faisaient pas.
Ah, et puis surtout quand j'en avais vendu 2, c'était moins fatigant que d'en vendre 200 quand même. Et puis en plus, les livres qui avaient beaucoup de succès en France, mes confrères les avaient déjà achetés. Donc j'ai été voir les choses faciles, les livres japonais en japonais.
Sur quoi, par exemple ?
Sur le vitrail Art déco Art Nouveau en Lorraine, par exemple. Un livre absolument sublime que je vendais 2500 francs.
Et il y avait des clients pour acheter un livre à 2500 francs ?
Oui, je disais l'autre jour, j'ai 2 fois dans une librairie, c'est moi qui ai vendu le livre à la cliente. Alors la lame, elle m'en a acheté un autre. Donc ça me faisait 4 livres dans la journée. J'étais ravi, moi, j'étais content. Donc j'avais un livre comme ça. J'avais un livre de Gongora.
De Picasso.
Les poèmes de Gongora illustrés par Picasso, que Gilbert doit bien connaître, enfin il a dû connaître. Et J'avais le jazz de Matisse en anglais. Je n'avais pas un seul livre en français. Je suis parti en faisant les pages jaunes des grandes villes pour trouver le nom des libraires. Alors, je sais pas si vous... Moi, je suis plutôt timide et je passais trois fois devant la librairie. Oh non, celle-là, elle est trop petite. Je ne vais pas rentrer. Oh, puis merde, mais si je rentre dans aucune, ça n'ira pas. Et puis pour finir, on rentre, on sort ces livres. Les gens, ils me regardaient comme si j'étais un fou furieux de venir vendre trois livres invendables. Et c'est comme ça qu'on a remonté la société. Et à l'époque, j'ai fait ça avec Colette Gaget, qui est maintenant aux éditions Bayard. Je dois dire que je dois beaucoup, beaucoup de reconnaissance parce qu'elle faisait la même chose de son côté. Et tous les soirs, on téléphonait. Alors, t'en as vendu combien? C'était pour s'encourager. Quelquefois, c'était rien. Quelquefois, c'était beaucoup. Et au bout de 2 ans de ce jeu, on avait quand même réussi à vendre près de 500 vitraux à 2500 francs, et j'ai vendu aussi 400 catalogues raisonnés de galets, alors là sans un mot de français, entièrement en japonais. Et voilà, et j'ai dit non, mais donc petit à petit on a réussi comme ça. Alors j'achetais un livre à Georges Brasillère, qui était gentil comme tout, qui est un ami avec qui j'avais fait des livres avant, et qui m'a dit écoute, tu fais la traduction française et tu me paieras quand tu auras de l'argent. Ça, c'est des gens qu'on n'oublie jamais. Donc, grâce à Brasillère, j'ai pu recommencer à publier des livres. Et le premier, c'est le Jacopo Bellini. Et j'en parle tout de suite parce que c'est vraiment... c'est un des tout premiers albums. C'est le premier album de dessin de Jacopo Bellini qui est gardé dans les réserves du cabinet des dessins du Louvre. Et...
D'où le travail avec Roselyne Bacou qui s'est fait
ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça va m'amener à Roselyne Bacou. Et ce livre est incroyable, puisqu'il était fait à la pointe d'argent sur des feuilles couvertes de craie. Et c'était la seule façon qu'il avait de dessiner, donc d'une fragilité extraordinaire. Donc cet ouvrage, on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le consulter. Et là aussi, j'estime qu'un éditeur, et puis c'est Roselyne qui m'a fait découvrir le papier, l'aquarelle, tout le dessin en gros. Et là, je pense qu'on fait un travail merveilleux, parce qu'on permet... au public de découvrir des richesses que personne ne verrait autrement. Et cet album de Jacopo Bellini, ça aurait été un succès, mais on avait réussi à séduire un journaliste de la télévision au journal de 13h, et on a eu la surprise de le voir se promener avec une caméra pendant 1 minute dans le livre. Et j'avais jamais vu un livre comme ça. Et alors là, ça veut dire que ça nous a beaucoup aidé quand même.
Mais c'est, au niveau de l'impact public, tu veux dire? Oui.
Pardon?
Au niveau de l'impact par rapport au public.
Oui, ça, oui, ça nous a aidés. On avait fait 1000 exemplaires et on les a vendus très, très bien. Mais Roselyne Bacou était la conservatrice du cabinet des dessins. Et un jour, elle me dit, Claude, mais pourquoi vous ne publiez pas les dessins de Boudin? Alors bon, avant de sortir mes livres, j'en parlais aux libraires quand je faisais mes tournées. Et puis j'en parlais à mes confrères américains quand j'allais à Francfort. C'était un petit peu le garde-fou d'un éditeur... pour pas tâcher de faire trop de bêtises, ça n'empêche pas de les faire quand même, mais au moins on sait qu'on les fait. Et je demande à tout le monde, on me dit, tu sais, Boudin, aucun intérêt, ça, vraiment t'as pas beaucoup de chance, c'est un artiste, il est à cheval, il est pas tout à fait impressionniste, c'est difficile. Bon, ça fait rien. Il y a 6000 et quelques dessins au cabinet des dessins que personne verra jamais, qui sont classés par nature dans des grands albums dans les caves. Il y a notamment 3500 vaches, je vous le dis, parce que ça fait beaucoup, ça fait un grand troupeau. Donc on part sur les dessins de Boudin, et je fais une maquette, et puis là, c'est pareil, Roselyne Bacou me dit, il faut que vous fassiez faire les textes par Laurent Manœuvre. Je dis, Laurent Manœuvre, qui c'est? Il me dit, c'est un jeune conservateur qui vient de faire... justement sa thèse sur Boudin, il est très bien, moi je ferai la préface, mais faites-le travailler. Bon, et nous voilà partis, et je sors ce livre dans lequel on avait mis pratiquement 300 dessins, parce que j'avais beaucoup aimé les mettre en petit, un peu au format où ils étaient, et puis tâcher de garder les supports incroyables que Boudin a utilisé, le papier de boucher, je ne sais pas si les gens à Chargé se rappelleront, avec des gros morceaux de bois, des choses, des papiers bleus, des papiers marrons, et c'était peint des deux côtés, à la gouache, avec tout ce qui lui tombait sous la main, des morceaux de journaux, des d'eau de menu quand il était dans un endroit. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sors mon livre au mois de mai, il y a 8 ans ou 9 ans, je crois, Et grâce au libraire, j'ai le prix du Mets des libraires. Avec ce livre, pour la première fois où on l'a montré, et puis ce livre a bien marché. Quand je dis bien marché, on en a vendu 4 500 pour une petite maison comme moi qui se vendait tout seul, c'était déjà beaucoup. Et on a été très très contents. Et puis 2 ans après, le musée Boudin à Honfleur me dit « Mais on va faire une grande exposition, est-ce que vous voulez faire le catalogue ?» Et me voilà parti, j'étais devenu Monsieur Boudin là, pour 2 ou 3 ans.
Ça tombe bien, c'est le centenaire cette année alors, de la mort.
Et du coup, je refais le catalogue du centenaire cette année aussi. Mais je viens au musée parce que je crois que notre gros problème éditeur, c'est d'arriver à trouver des financements pour limiter les risques énormes que représente l'investissement sur un livre. Et pour ceux qui ne sont pas de la profession, il faut savoir que le moindre des livres chez nous coûte entre 3 et 600 000 francs. Donc ça, c'est des factures fournisseurs. Hein. Donc quand on peut trouver des musées ou des banques ou des financiers qui prennent une partie de cet investissement à leur charge, ça nous permet de nous engager un peu plus sur d'autres sujets.
Du coup, c'est quoi le prorata entre des livres de création et des livres catalogues d'exposition ? Vous en faites quoi ? 1 pour 2, enfin je veux dire 50% ce sont des catalogues d'exposition dans votre production.
Non, parce que je ne vous ai pas dit, mais c'est de toute façon pour équilibrer les comptes aussi, il faut acheter des livres à l'étranger. Donc je m'arrange pour avoir toujours un tiers de coédition. Le gros avantage des coéditions, c'est pas que ça coûte beaucoup moins cher que les nôtres, mais c'est qu'on sait le jour où on signe le contrat combien on va les payer. Quand je fais un livre, je ne sais jamais combien il va me coûter avant de l'avoir fini. Parce que là, c'est pareil, on rencontre des auteurs. Tu ne peux pas ne pas mettre ce tableau, il coûte. Et puis là, tu as vu les textes de machin. Bon, alors on rajoute 3 pages, 5 pages, 6 pages. On met des pages couleurs, on part avec un prévisionnel de 300 000 francs, puis on arrive à 450. Le prix public étant fixé avant, c'est assez sportif. Donc, moi, avec quelques catalogues d'exposition, 1 ou 2 par an, et puis les coéditions qu'on achète, ça me laisse 2 livres à tout risque, si j'ose dire. Et ma foi, on arrive à peu près à s'en sortir.
L'entreprise en thèse, c'est combien de personnes ?
C'est 3,5.
C'est-à-dire, il y a un homme tronc ?
C'est 3,5, et entre 3,5 millions et 4 millions de chiffre d'affaires.
Mm-hmm. Et on répartit se va plutôt comment ? Mieux. Réparti comment ? Je veux dire, c'est beaucoup en fabrication, beaucoup en comptabilité, beaucoup en distribution et diffusion dont on parlait.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on fait tous de la diffusion, distribution. Même la comptable, elle a un département.
Parce que un département moi,
de
régional.
France pour aller vendre des livres. Moi, je ne concevais pas, après les échecs retentissants que j'ai eus, je ne conçois plus qu'on puisse être éditeur sans connaître la librairie et sans y avoir été. C'est quand même un métier, c'est quand même eux qui nous font vivre. Ils ont des problèmes qu'on ignore le plus souvent. Par exemple, pourquoi est-ce que le libraire de Perpignan, le livre lui coûte 2% de plus que celui qui est à Paris ? Eh bien, parce qu'il est plus loin, les frais de port sont différents. Ben pourtant, voilà. Et il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qu'il faut découvrir en voyageant. Et moi, je dois dire, je me suis fait beaucoup d'amis et beaucoup de relations. Et je me battrai toujours. Et ma bataille pour le livre d'art, c'était aussi, et ça sera toujours, avec les libraires.
Mmh. Du coup, ça nous permet une transition très facile avec ce dernier volet que je voulais qu'on évoque, qui est le mai du livre d'art lui-même, hein, puisque c'est le mois de mai, et que c'est aussi à cette occasion que cette table ronde se fait, cette interview. C'est né il y a 10 ans maintenant, et je crois que c'est malheureusement la dernière année où tu le diriges, c'est ça ?
C'est ma dernière année, mais c'est le 10e anniversaire du mai du livre d'art qui avait été créé justement pour tâcher de désaisonnaliser ce mot. Je le dis, ça c'est rien pour Claire.
C'est vrai que ça a marché. Ça a complètement marché.
Et ça a marché.
Il y a 10 ans, tous les bouquins sortaient à Noël. Là maintenant, il y a un deuxième temps fort qui est le printemps.
Et les premières années, on a eu un peu de mal à trouver la formule qui puisse satisfaire tout le monde sans être trop difficile à supporter par les libraires et qui soit pas trop compliqué à gérer pour nous. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette formule du prix de lancement de -20% pendant les 2 mois de printemps. On fournit du matériel de décoration aux libraires de façon à ce que pendant une dizaine de jours, plus s'ils peuvent, ils fassent une belle décoration de façon à attirer l'attention. Le CNL la gentillesse de, pendant cette période, de faire une aide au fond, et ça je crois qu'il faut bien insister là-dessus, c'est-à-dire que pour tous les libraires qui rachètent des livres du catalogue de plus d'un an, ils remboursent 50% de la facture. Je veux dire, c'est quand même, pour cette période du mai du livre d'art, c'est quand même un effort tout à fait remarquable qui s'est chiffré l'année dernière à 250 000 francs. Et je crois que cette année, ils ont passé les 300. Donc, je veux dire, c'est quand même un très gros effort pour nous appuyer. En plus, on a la chance au printemps d'avoir nos amis journalistes qui ont plus de temps, qui ont plus de place et qui mettent en avant le livre d'art d'une façon tout à fait remarquable. Et je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de tes confrères qui m'ont dit que grâce au mai du livre d'art, ils avaient 10 à 12 pages de plus dans les magazines pour parler du livre d'art.
Oui, parce que l'événementiel permet. Oui,
c'est quand même aussi extraordinaire. Et cette année, on est passé de 210 libraires à 260 libraires en France qui font le mai du livre d'art. Avec les étrangers, puisque maintenant, Clermont Rizet qui est là, revient du Liban pour le lancement du mai du livre d'art à Beyrouth. On le fait maintenant en Belgique, on le fait en Suisse, on irait, c'est pas trop difficile. Je suis en train d'essayer de le lancer à Pékin, et je dois dire, je viens de recevoir un fax dans lequel ils disent que ça les intéresserait, en tout cas avec 3 librairies pour commencer, de faire le mai du livre d'art à Pékin l'année prochaine. Et voilà. Ça, je trouve que vraiment, c'est quelque chose d'important. Le budget du mai du livre d'art, c'est environ 2 millions de francs, financé au niveau de 600 000 francs par les éditeurs, 200 000 francs par le CNL, et puis le reste, c'est la quête.
C'est la taille de la maison d'édition qui implique son implication financière, enfin qui induit son implication financière, ou c'est simplement chacun paie la même quote-part ?
Non, il y a une quote-part différente suivant le chiffre d'affaires des maisons d'édition. C'est-à-dire que les très grosses maisons payent 50 000 francs et les petites payent 12 000 francs.
Et une maison comme Antaise publie combien de livres pratiquement là pour le mai du livre d'art ?
Eh bien, cette année, j'en ai fait deux. On n'a pas le droit, donc j'ai fait une coédition avec la Caisse des Monuments Historiques, un livre sur le Mont Saint-Michel, mais c'est une recette que j'ai donnée à quelques confrères. Et je fais un livre, moi, sur le siècle d'or de l'aquarelle anglaise, de 1750 à 1850. Et je dois dire qu'on a une presse tout à fait extraordinaire, alors qu'en fin d'année, on n'a rien.
Oui, et ça coïncide en plus avec des expositions sur le même sujet, sur l'aquarelle. Il y a beaucoup d'expositions en France en ce moment.
C'est un vrai coup de chance. Ça aussi, c'est une aventure. L'année dernière, j'ai rencontré au Salon du Livre un monsieur absolument charmant, qui est collectionneur, qui vient et me dit, mais moi, il vient avec un petit carnet charmant, voilà toute ma collection d'aquarelles. Je voudrais faire un carnet qui sert de guide aux gens, parce que je suis tellement embêté pour acheter mes aquarelles, pour comprendre comment ça marchait, qu'il fallait aller voir et tout. Est-ce que vous pouvez me l'éditer ? Je lui dis oui, mais moi je vous ferai autre chose. Et il me dit ah bon ? Et je lui montre mon livre sur les dessins de Eugène Boudin. Je dis moi je veux bien vous faire l'aquarelle anglaise, mais sous cette forme-là, parce que je trouve que c'est tellement beau. Et puis l'aquarelle, c'est quand même ce qu'il y a de plus spontané dans toute l'expression artistique, je trouve en tout cas. L'image, puisque l'aquarelle, on ne peut pas la retoucher, on ne peut rien faire, c'est de l'émotion. Et c'est vraiment l'émotion qui va sur le papier tel que les gens la sentent. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a des artistes, ces trois tâches, ils les ont fait en passant devant quelque chose qui les a émus. Et on n'a pas ça dans la peinture où les gens sont obligés de travailler, surtout au 18e et au 19e, quelquefois pendant un mois pour faire un tableau. Et je trouve que c'est vraiment dans les esquisses qu'on trouve toute la saveur, toute la sensibilité de l'artiste.
C'est bien, mais on aimerait entendre plus souvent peut-être des éditeurs parler avec amour justement de ce rendu et de cette difficulté de passer quand même de l'œuvre originale à un support papier. Hein. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va peut-être arrêter là l'interview de Claude, mais si vous avez des questions éventuellement à lui poser... n'hésitez pas, à moins qu'il ait fait largement le tour de toutes vos interrogations sur l'édition d'art.
Non, le maître du livre, là, on n'a pas encore été en Italie, mais moi, le jour où on le fera dans toute l'Europe en même temps, vous savez, je serai le plus heureux des hommes.
Et pourquoi pas? Parce que l'Italie est quand même un gros producteur de livres d'art.
La difficulté, c'est de trouver le complice sur place, dans le pays, qui peut nous servir de relais. On l'a trouvé assez facilement au Liban, on l'a trouvé en partie en Chine, puisque c'est l'importateur qui a décidé de jouer le jeu, et qu'en plus, c'est un monopole. Donc on a des chances. En Italie, je ne connais pas de distributeur ou de diffuseur suffisamment.
Mais par exemple, Feltrinelli, qui est quand même un très grand éditeur italien, ou même Mondadori,
Mais ils ne vont pas diffuser des livres français chez eux.
Non, mais vous avez par exemple, vous avez eu un salon du livre à Turin, où la France fut à l'honneur, et ce serait vraiment très bien que l'on puisse imaginer une manifestation de ce genre pour le livre d'art, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, je veux dire qu'il y a un public en Italie qui
C'est un marché,
c'est un marché très important.
Mais surtout, il y a beaucoup de productions. Vous savez quand même que tous les banquiers italiens, ils offrent un livre d'art en fin d'année.
Moi, je pensais pour trouver des mécènes où il y a une longue tradition de mécénat en Italie. Vous avez toutes les banques, toutes les maisons d'assurance, où vous pourriez peut-être trouver des interlocuteurs tout à fait valables.
Oui, par les centres culturels aussi pourraient être un relais à montrer justement toutes les productions françaises.
Non mais la porte est ouverte de toute façon à toutes les suggestions. De toute façon.
D'autres questions?
Merci. Une toute petite question technique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'invention par un de vos grands-oncles de la trichromie dans les années 30. Est-ce que vous pouvez nous préciser si le procédé qu'il a mis au point était sur film ou si c'était de la photogravure sur métal?
Non, c'était de la photogravure sur plaque de verre. Oui, parce que pour le problème de stabilité, il fallait quand même la gélatine puisque c'était une photo. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on se faisait ses plaques soi-même. C'est-à-dire qu'on goulait son collodion, on le sensibilisait, l'hydrate d'argent, on le mettait dans son appareil. Je veux dire, le photographe, c'est un monsieur qui avait les doigts tout jaunes. Parce qu'après ça, une fois qu'on avait fait son cliché, il fallait aller le développer, le regarder, on recommençait toute l'opération si ce n'était pas réussi. Mais c'était sur verre et c'était des clichés de taille assez grande, puisqu'on avait des appareils qui faisaient jusqu'à 24-30.
D'accord, merci.
Je vous en prie. En fait, ce n'est pas vraiment une invention. Simplement, il a exploité toute une série de découvertes de certaines personnes et les a remis ensemble. Ce n'est pas lui, il n'a pas inventé la sélection de la couleur ni tout ça. Simplement, son idée, c'était d'utiliser tout ce qui était sur le marché pour arriver à photographier des choses vivantes. Je précise que l'héliogravure est quand même pratiquement le seul procédé qui permettait de reproduire en trois couleurs avec la puissance extraordinaire, alors que en offset et dans tous les procédés classiques, c'est toujours en quatre couleurs avec un noir qui vient rattraper un petit peu les aléas de ce qui s'est passé en dessous ou au-dessus, puisque ça dépend l'ordre de tirage. En héliogravure, nous n'avions que du jaune, du rouge et du bleu. On n'utilisait pas de noir chez nous. Parce que le noir n'est jamais que la complémentaire des trois autres couleurs. Voilà.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier et à remercier aussi la BPI qui est organisatrice de cet entretien.
Je crois qu'il y a Benoît qui a deux mots à dire.
Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Je voulais simplement annoncer que, et Claude d'ailleurs a été la première personne informée de ce salon, qui je crois va pouvoir donner un petit peu d'élan à beaucoup d'éditeurs dont le fonds, ou une partie du fonds est très important et entièrement dévolu à l'art moderne et contemporain. Donc le Centre Pompidou est heureux de vous annoncer que pour le week-end de la Pentecôte, qui n'est peut-être pas le week-end idéal pour aller dans un salon, et ici même, dans ce lieu-là, 20 éditeurs vont vous présenter donc les 30 et 31 mai, lors du rendez-vous du livre d'art moderne et contemporain, toute la production, je crois, essentiellement, c'est quand même une première que nous faisons, toute la production donc du livre d'art sur l'art moderne et contemporain. Et le multimédia également. Ça va se passer ici même, l'entrée est gratuite, elle est libre, et je pense que c'est une contribution que le Centre Pompidou, éditeur d'art également, et pas des moindres, je crois, peut apporter donc à cette production très importante, mais qui, en librairie, on en parlait avec M. Pollard, et puis avec toi également, Claude, a certaines difficultés à se développer, puisque le livre d'art, c'est de l'investissement. Le livre d'art, ce sont des rotations lentes. Et c'est ce que Claude Drégère a voulu développer en lançant le mai du livre d'art, essayer de perpétuer un petit peu la présence du livre d'art dans les librairies. Voilà. Merci beaucoup.